Auteur, compositeur, interprète, guitariste, parfois acteur, membre du groupe Martin Circus avec ensuite une carrière solo, Gérard Blanc a prouvé qu'il était un très grand chanteur. Il avait un humour énorme et une générosité sans limite. Il s'intéressait à tout ce qui était pop. Il adorait les sons, la musique, le rythme, la mélodie. En fait, il aimait le partage. Gérard Blanc nous a quittés en 2009. Son épouse et manager, Brigitte, lui a promis de toujours défendre son patrimoine et c'est ce qu'elle fait avec beaucoup d'amour et de dynamisme. J'ai rencontré pour vous, Brigitte Schiavi Blanc, qui évoque avec beaucoup de tendresse et de délicatesse Gérard Blanc, l'artiste, mais aussi l'homme.
Comment ça s'est passé ? Je ne sais pas pourquoi, j'ai plus peur d'aimer. Elle dit j'imagine des musiques qui se dansent.
Bonjour Brigitte et bienvenue sur Playlist La Web Radio.
Bonjour Roselyne, je suis super contente d'être avec toi.
Bah écoute, moi je suis ravie que tu me reçoives chez toi en plus, c'est hyper sympa. Et tout ça pour évoquer le parcours de Gérard Blanc, qui a connu un grand succès dans les années 70. Je me trompe pas, hein, au sein des Martin Circus.
Absolument.
Puis en solo à la fin des années 80, mais le parcours de Gérard ne se résume pas qu'à ça. Tu vas nous en parler, mais pour commencer, Brigitte, je te laisse te présenter aux auditeurs de Playlist La Web Radio. Qui est Brigitte Schiavi Blanc ?
Eh bien, écoute, mon mari me disait toujours, ne raconte pas ta vie, on ne te croira pas, tellement tu fais de choses et tellement tu as fait de choses. Disons que j'ai toujours été dans le spectacle. Voilà, j'ai commencé en tant que comédienne dans les années 70.
Théâtre ou cinéma ?
Théâtre. Et j'ai fait le Festival Off Avignon. J'étais aussi dans des troupes de théâtre. Après, j'ai écrit pour la télévision. J'étais scénariste.
Ah ouais.
Et c'est un petit peu, d'ailleurs, grâce à ce changement de métier dans les années 90, que j'ai rencontré Gérard.
D'accord, et ben nous y voilà, parce que justement j'allais te demander, mais comment tu as connu Gérard Blanc ?
Écoute, voilà, je faisais ce qu'on appelle une bible dans le métier de scénario, où tu présentes ton histoire, le thème principal, les personnages principaux, et il me fallait trois comédiennes, et j'avais envie d'avoir une comédienne brune, une blonde et une rousse pour ma bible, pour coller à mon histoire de femme. Les dames de cœur, et je suis allée donc dans une agence de presse où on m'a dit, écoute, cette personne reçoit énormément, va à l'agence de presse Avenue Victor Hugo dans le 16e, et il reçoit énormément d'artistes, et va le voir, va lui demander. Et je suis arrivée, et je ne sais pas pourquoi, il m'a dit, écoute-moi ce qu'il y avait, je vais te présenter Gérard Blanc. Et je lui dis, mais Gilles, je ne suis pas du tout venu dans ton agence pour ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mon scénario. Gérard Blanc, tu sais, je ne suis pas là pour ça, quoi. Et il me dit, tu ne peux pas me dire ça, toi, l'ancienne comédienne, le mec de Martin Circus. Et je fais, bon, allez, ok. C'est vrai que Martin Circus, il m'amusait avec leurs costumes, avec plein de choses. Moi, j'écoutais beaucoup de musique anglo-saxonne dans les années 70. Donc, c'est vrai que je n'écoutais pas tellement les Français. Mais je reconnais que Martin Circus, à chaque fois, nous amenait du renouveau, on va dire, en France. Et donc j'ai dit ok, allez. Et ça a été un peu des deux côtés, de Gérard et de moi. On savait pas ce qu'on allait devenir ensemble, mais on savait qu'on se quitterait plus.
D'accord.
Voilà. Donc c'est pas un coup de foudre du tout, non. Parce que c'était pas du tout à un niveau amoureux, mais on a su qu'on s'était retrouvés sur cette planète.
Il y avait un fil invisible qui vous reliait.
Absolument, absolument. On s'est dit, moi je me suis dit, je ne le perdrai plus jamais. Et il m'a avoué bien plus tard qu'il m'a dit, moi c'est elle qui m'accompagne dans ma vie. Quoi. Donc ce n'était pas du tout un coup de foudre, c'était un coup de quoi ?
Un coup de...
Ouais, mais presque métaphysique et spirituel.
Ah, d'accord.
Comme si on s'était retrouvés dans un ailleurs.
D'accord, oui, comme je disais à l'instant, il y a un fil invisible qui vous lie tous les deux.
Comme si on était des jumeaux où tu te paumes et tout d'un coup, la vie fait qu'on te dit bah tiens, voilà ton frère, voilà ta sœur. Tu te veux te voir en mâle, te voilà. Tu veux te voir en femelle, la voilà, quoi.
D'accord, c'est joli comme histoire. Alors, est-ce que tu peux nous raconter quand Gérard a eu le déclic de se lancer dans la musique ?
Écoute, je pense que ça a toujours été. Gérard a eu beaucoup de chance d'avoir une famille très ouverte sur tout ce qui était, à l'époque, médias, donc c'était radio, concerts, Son papa l'amenait énormément aux concerts, l'amenait même à l'Olympia, voir Ray Charles, tout ça. C'était des grands mélomanes, ils écoutaient énormément de musique. Alors ça allait de la Traviata à Charles Aznavour, au Platteur. Ils étaient très très ouverts à la musique, donc il a toujours entendu ça. Et un jour, son oncle, on ne sait pas pourquoi, qui habitait aux États-Unis, est revenu avec une guitare. Et lui a offert une guitare de droitier, sauf que Gérard est
était gaucher. Oui, c'est vrai.
Et mais c'est quand même essayé. Et puis petit à petit, au fil de l'école, de lycée, on disait au lycée à l'époque. Tu sais, dès la sixième, on était au lycée.
Absolument.
Il est tombé sur un groupe de fada qui faisait déjà aussi de la musique. Et au lieu de faire des études, en fait, il s'est dit, je préfère faire de la musique. Et ils ont commencé dès la cinquième, ce qu'on appelait la cinquième, à faire des booms. Donc, tu vois, ça remonte à très, très loin. On est vraiment début des années 60.
Ah oui. Donc, il avait un petit groupe dans les années 60.
Absolument.
D'accord.
Et qui sont devenus les Windings.
Les Windings, d'accord. Et donc, dans les années 70, maintenant, un petit peu plus haut, Gérard Blanc est le leader du groupe Les Martins Circus, avec pour commencer un premier grand tube en 1971, que nous allons écouter. Si tu veux bien, on va faire une première pause musicale. Et moi, j'ai envie d'écouter « Je m'éclate au Sénégal ».
Ok, éclatons-nous aussi en France et à Paris, et dans la région Île-de-France.
Allez, on s'éclate au Sénégal avec Gérard Blanc. Je m'éclate au Sénégal. Alors Brigitte, avant les Martin Circus, Gérard a eu une vie musicale.
Absolument, oui. Les Windings, comme oui, je te disais, où il a eu le culot un jour d'écrire à Le Proulx, le directeur du Golfe de Rouault, en voulant faire le tremplin. Et la réponse a été oui immédiatement. Et ils ont été super bien placés au tremplin. Alors c'est fou, parce que quand tu sais qu'il y avait juste avant des mecs comme Eddie Mitchell, Johnny Hallyday... Ah ouais, oui,
c'est pas le même style.
Non, et ils sont arrivés derrière. Et là, il y a c'était un manager ou un producteur qui s'appelle Izmir. Tu vois le nom quand même.
Ah oui, quand
Izmir,
même.
Qui leur dit, moi, vous me plaisez, les petits gars. Je vous offre 3 mois à Dakar. C'est quand même important que tu me poses cette question. Juste après, je m'éclate au Sénégal.
Ah, tu vois, mais c'est bien fait mes questions.
Et ils sont donc partis au Sénégal, 3 mois, les Windings.
D'accord.
Et quand ils sont revenus, eh bien, Vogue a été intéressée. Et leur a dit, ben, nous, on veut bien vous signer, mais c'est pas possible que vous ayez un nom anglo-saxon, il faut un nom français. Et c'est là que Gérard a trouvé, dans un bottin, ou je sais plus où, dans un dictionnaire, le nom de Balthazar.
D'accord.
Et c'est là que son nom Balthazar est arrivé et qu'ils ont quand même signé 2 45 tours chez Vogue.
D'accord.
Au moment où il y avait Balavoine et tout ça quand même, tu vois.
D'accord.
Il y avait tout ce petit monde en fait qui se retrouvait tout le temps.
Ah, c'est super comme histoire. Alors donc, le groupe Balthazar a eu un premier tube, Un Monde en Papier.
Oui, comme disait Gérard, un tube, il y a eu 2 disques de vendus à ma maman et à ma tante.
Eh bien, tu sais quoi, on va en écouter un tout petit extrait du Un Monde en Papier.
Oui, c'est une très belle idée parce que tu verras, on est donc en tout début des années 70, même avant, on est à la fin, excuse-moi, des années 60.
Mmh.
Et tu vas voir que Gérard a déjà sa signature vocale, on reconnaît tout de suite Gérard Blanc.
On va écouter.
Chercher pendant tant de temps d'aimé, j'ai questionné des gens toujours étonnés, j'ai voyagé sans trouver la clé si bien cachée. Et
donc, c'était donc Un Monde en Papier, un petit extrait là, du groupe Balthazar, premier groupe de Gérard Blanc.
Premier groupe signé, puisqu'avant ils avaient les Windings qui avaient fait de la scène quand même. Voilà.
Alors, on va venir un petit peu sur une question un petit peu plus perso. Comment il était Gérard au quotidien ? Constructif ou il était carré ?
Alors, c'est marrant que tu me dises constructif ou carré, parce que pour moi, justement, les gens qui sont constructifs, ils sont quand même en général assez carrés. Et Gérard était très différent, c'est-à-dire que c'était un vrai rêveur. Mmh. Son surnom, c'est quand même Papillon, donc ça veut tout dire.
Ouais.
Et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'il avait commencé son Olympia en 2008 avec des papillons en ouverture de sa scène.
D'accord.
Parce que c'était son surnom, parce que Gérard, il virevoltait.
Mmh.
Mais en même temps, quand il avait un truc dans la tête, là, il ne le lâchait plus et il était capable de devenir très carré.
D'accord.
Donc, tu vois, il avait cette ambivalence suivant le but à atteindre. Quand il avait un truc dans la tête, il voulait vraiment y arriver, il lâchait pas.
Mmh.
Et c'est d'ailleurs aussi peut-être pour ça qu'on s'est reconnus, parce que comme il disait de moi, ma femme, elle lâche jamais son os, c'est une vraie chienne, parce que ça l'amusait. Parce qu'en astrologie chinoise, je suis chien, moi.
Ah, d'accord.
Et donc, ça l'amusait de dire que j'étais une chienne.
Et pourtant, t'as pas de chien, t'as des chats.
Ouais, j'ai des chats et pas de chien, c'est vrai. Mais bon, en ville, avoir des chiens, moi, je suis pas tellement pour.
Oui, c'est
pour petit toutou, tu vois, sur le bitume.
Ouais, c'est vrai.
Les chats se débrouillent mieux en ville.
Ils adorent grimper sur les toits.
Oui, 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 ils adorent ça, aller se balader dans le quartier. Et résultat, il avait ce double personnage. Il y avait vraiment ce double personnage. Autant il pouvait être complètement dans la lune, autant tout d'un coup, quand il voulait quelque chose, et même sur scène, c'était un mec adorable, mais si jamais on répondait pas à ce qu'il voulait pour être bien sur scène, il pouvait devenir très dur, Gérard.
Oui, mais pour un bon résultat aussi.
Mais absolument, voilà. Absolument, c'était toujours pour une bonne cause.
Bien sûr. Alors Martin Circus et Gérard Blanc, moi j'ai regardé sur internet des extraits d'émissions des années 70-80. Et là quand même, on s'aperçoit que Martin Circus et Gérard Blanc faisaient partie des artistes que l'on voyait régulièrement, fréquemment dans les émissions de télé, à l'époque quand les familles avaient la télé.
Mais écoute, de toute façon, moi c'est ce que je dis toujours... C'est fou parce que Martin Circus est un groupe qui a un peu disparu au fil du temps et c'est vrai que les jeunes ne le connaissent pas bien, mais il faut quand même leur reconnaître plus de 14 ans en tête d'affiche.
Mais oui, c'est vrai.
Ils ont été en tête d'affiche, donc ils faisaient toutes les émissions de télé, toutes les radios, et c'était des mecs extraordinairement talentueux, tous les musiciens. Mmh. C'était des grands musiciens, c'était pas juste un groupe comme ça où t'en as un ou deux qui lead. Et derrière, des mecs à la traîne,
oui. Mmh.
C'était des vrais musiciens. Chacun dans son instrument était un grand artiste. Mmh. Et c'était des mecs qui avaient une formation, oublie pas, on sort des années 70, où tout le monde a écouté la musique anglo-saxonne, la pop,
oui, c'est vrai.
Le disco.
Oui.
Et donc, les Martin Circus se sont ouverts absolument à tous les styles de musique et ont amené en France tous ces styles de musique. Oui. Faut leur reconnaître ça, tu vois.
Ah oui, parce que c'est vrai que les gens, je m'éclate au Sénégal, etc. À cette époque-ci, on chantait beaucoup.
Absolument. Et aujourd'hui, même dans les maisons de disques, moi je le vois quand je suis en rendez-vous pour d'autres artistes, il s'avère que les jeunes DA de 30 ans, quand on me présente, ils ne me disent pas une autre histoire. Ils me disent « Shine Baby Shine », qui était le titre phare disco des Martin Circus.
Oui, c'est vrai.
Qui a été au Billboard aux États-Unis quand même.
Oui,
ils sont
quand
rentrés.
Même.
Ah ouais, ils étaient classés dans les 20 premiers, alors que c'était un groupe français.
Ouais. Et Brigitte, comment se passait le travail avec Gérard? Parce que être en même temps sa manager et sa femme, vie quotidienne tout en musique alors?
Écoute, je suis aussi, bah, comme ça tout le monde saura tout. En plus d'être chien, je suis poisson. Et le poisson, ouais, voilà, est un signe très riche. Je veux dire, on a énormément de planètes qui nous gouvernent, ce qui nous permet quand même d'avoir énormément de casquettes et d'arriver à nager et en surface et en eau profonde et en eau trouble. Et c'est vrai que ça a un peu déstabilisé Gérard au début de notre relation parce qu'il n'avait jamais vécu avec une femme poisson. Et
avec une sirène.
Avec une sirène. Et moi, je sais très très bien séparer les choses. C'est-à-dire que, à l'instant T où on montait, que ça soit dans les loges ou sur scène, je n'étais plus sa femme. J'étais vraiment sa manager ou sa productrice.
Tu passais au statut de manager.
Absolument. Ouais. Et je ne mêlais absolument pas ça. Et ça arrivait même, tu vois, quand on sortait des médias où je disais, mais pourquoi t'as répondu ça? C'était pas du tout ça l'angle d'attaque qu'il fallait faire. On n'est pas là-dessus en ce moment. Il fallait que tu parles du prochain disque ou du prochain spectacle. Mmh. Et dans la seconde où on montait dans la voiture pour rentrer à la maison.
Stop, là c'était...
Stop. Et je disais, on va manger où, mon amour? Et au début, ça l'a déstabilisé. Parce que comme je l'engueulais, par exemple, ou que j'étais super froide...
À la sortie du spectacle, tu montes en voiture, après tu fermes la portière et paf,
on passe à la vie privée.
C'est bien.
Et il a mis un certain temps d'adaptation. Mais bon, comme il était sagittaire, ça sait aussi, tu vois, s'adapter. C'est des grands voyageurs, les sagittaires. Mmh. Et peut-être même que c'est ça qui le réconfortait, c'est qu'en fait, il était avec plusieurs personnes à la fois. Il avait sa manager et sa femme.
Ouais. Oui, ça devait pas être évident non plus.
Non, mais non. Et donc, résultat, on était dans une parfaite confiance, et en tant que manager, et en tant que femme. Et c'est vrai qu'on a vécu, du moment où on a vécu ensemble, on a vécu 24 heures sur 24 ensemble. On ne s'est jamais quitté. Jamais, jamais, même un instant, quoi.
Avec la même passion, la musique.
Ouais, absolument. Et c'est vrai que même quand on voyageait, c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, je suis capable, tu vois, de faire énormément d'émissions sur Gérard, parce qu'on parlait énormément de sa vie, de son passé. Moi, il s'intéressait énormément à ma vie passée aussi. Mais on a toujours été tous les deux dans le spectacle.
Mm-hmm.
Donc, c'est vrai qu'on était tout le temps en train de parler de spectacle, de projets futurs. Et que c'est comme ça aussi qu'on s'est dit, mais notre vie à nous, notre vie de famille, nos bébés, c'est nos spectacles, quoi. Il n'y a rien d'autre qui nous intéresse, en fait, tous les deux. Il faut être honnête, Il vivait aussi pour sa musique, il vivait aussi pour cette passion depuis qu'il était jeune, même s'il a eu des vies passées avec des enfants et tout. Gérard vivait et vit, tu vois, je dis encore au présent, pour la musique, quoi, et moi pour le spectacle.
Eh bien, tu sais quoi, c'est très beau ce que tu viens de nous raconter. Et on va écouter Marilène.
Ok.
Ça te va?
Ouais, absolument.
Allez, allons-y pour
dansons,
Marilène.
Dansons sur Marilène.
Et donc, c'était Marilène. Alors, Brigitte, après les concerts, Gérard, il rencontrait son public. Et est-ce qu'il acceptait facilement de discuter avec son public?
Écoute, c'est... voilà. Même aujourd'hui, je vais faire un petit hommage à quelqu'un que j'aime beaucoup. Et aujourd'hui, je suis très proche encore de sa fille et de sa femme. C'est Jérôme.
Ah oui.
Et chaque fois qu'on sortait de concert, après, les responsables me disaient toujours... C'est incroyable parce qu'il y en a deux artistes au monde qui tout le temps, sont capables de passer même plus de temps après le spectacle que pendant le spectacle. Mmh. C'est ton mari et c'est Jérôme. Oui. Gérard avait un amour de son public, mais qui dépassait tout. C'est-à-dire qu'il était capable d'entendre des histoires pendant une heure, deux heures après le spectacle, où les gens lui disaient « Gérard, t'as changé ma vie ». Gérard, grâce à toi, parce qu'une autre histoire symboliquement.
Oui, bah oui.
Voilà.
Ouais.
Grâce à toi, j'ai réussi à oser dire à la personne avec qui je vivais, écoute, ça va pas, on est en train de se détruire tous les deux, on se fait du mal, faut qu'on se sépare. Et ça s'est super bien passé, parce que tu m'as donné cette force. D'autres qui nous disaient, j'osais pas avoir des enfants. Grâce à toi, je me suis dit, il faut que je démarre cette histoire de père ou de mère.
Mmh.
Et certains aussi qui disaient... Moi, ça m'est arrivé après son départ à Gérard, où j'ai reçu une lettre magnifique d'un jeune homme qui m'a dit, écoute, Brigitte, il faut que je t'avoue quelque chose. Quand ma maman m'a amenée au concert de Gérard, j'avais 14 ans. Et moi, je m'en foutais. Et j'ai écouté, j'ai vu Gérard. Vous avez accepté de me voir ma maman après le spectacle. On a fait des photos tous ensemble. Et je dois t'avouer une chose. En fait, j'avais décidé de me suicider. Et si je ne vous avais pas connue, je ne pourrais pas aujourd'hui, je ne sais plus l'âge qu'il avait, 20 et quelques années, t'écrire pour te remercier parce que je ne serais plus là. Et ce jour-là, après avoir toutes les paroles des chansons de Gérard qui me sont venues dans la tête toute la nuit, avoir écouté les disques de ma mère, avoir dit « mais il y a des artistes qui sont formidables, il y a des gens qui ont un cœur énorme, je n'ai pas le droit de me foutre en l'air », et ben j'ai décidé de rester. Et je voulais vous le dire. Et j'ai trouvé cette lettre, mais c'est incroyable, quoi.
Mais ça doit être émouvant, en plus, parce que quand tu lis ça, tu te dis, tiens, cette personne-là, elle a été sauvée, je veux dire, entre guillemets, parce qu'elle adorait Gérard Blanc,
par sa chanson, par l'homme. Et par l'homme, par l'artiste.
Oui, alors en plus, ils font du bien par la musique, par ce qu'ils peuvent procurer de distraction aussi, et puis
de chaleur de cœur
au public. Et en même temps, involontairement, ils arrivent à...
Tout ce passage derrière, après le spectacle, tu vois, où on est resté longtemps, et je me souviens très très bien, ils nous ont accompagnés jusqu'au parking, jusqu'à la voiture, je l'ai revue cette scène, où on est remonté, on a dit, mais c'est incroyable, et en fait, la maman avait dû se rendre compte que son fils allait très mal, et avait dû voir tout d'un coup son fils changer en écoutant, écoutant Gérard.
Ouais.
Et moi, ça m'a foutu un choc parce que Gérard était parti et que cet enfant qui était devenu un jeune homme, lui, était vivant.
Ah oui, bah oui.
Et ça m'a vraiment foutu un choc quand j'ai reçu cette lettre.
Ouais. Gérard est toujours présent dans les spectacles des années 80. Tous les spectacles que de les grandes villes donnent des années 80 ont un grand succès quand même. Et moi, je pense à un groupe tout particulièrement que tu connais bien aussi, Brigitte. Ce sont les Comeback 80.
Ouais.
Ils ont accompagné pendant longtemps les artistes des années 80, justement. Et systématiquement, dans leurs concerts, il y a la chanson de Gérard Blanc, Une autre histoire. Et tu sais, lors d'une interview qu'ils m'ont donnée il y a un an et demi à peu près, là, du côté de Chantilly, Fredo, le pianiste, à un certain moment... il a évoqué Gérard, justement. Il s'est levé, et comme il y avait un piano là, dans le bar où on était, il s'est dirigé donc vers le piano qui était justement là. Et juste pour moi, il me dit, tiens, je te fais quelques notes, juste une autre histoire. J'avais envie d'écouter justement ce petit extrait, t'es d'accord ?
Mais absolument, absolument.
Bah, allez, on y va.
Empêcher d'exister. Quelque chose de neuf a tout changé. Quelque chose, et ça me fait avancer. On oublie tous les gens, tous les naufrages, tous les bateaux touchés, coulés. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Je ne sais pas pourquoi j'ai plus peur d'aimer. Elle dit, j'imagine des musiques qui se dansent pour toi. Elle dit, j'imagine des mots dans le silence pour toi. Des jours et des nuits où la vie recommence comme ça.
Merci beaucoup, Fredo.
Félicitations.
Alors, c'est beau quand même de savoir que les chansons de Gérard sont reprises quand même dans certains spectacles.
Une autre histoire énormément reprise, oui. Et même pour les collégiales, sur H Tendre et Tête de Bois, la RFM, oui. Star 80, c'est vrai que ses potes lui ont rendu ce bel hommage, oui. Mais c'est vrai aussi que cette chanson est très porteuse, tu vois, parce que symboliquement, comme je te disais tout à l'heure, elle ouvre tellement d'horizons au public,
oui.
Que voilà, on démarre une autre histoire très régulièrement. Et je te remercie beaucoup du passage là que tu viens de nous offrir avec Fred, parce que entre Fred et moi, il y a une vraie histoire d'amour autour de cette chanson. Fred, ils sont beaucoup à la reprendre, mais peu comprennent comment Gérard la chantait.
Oui, parce que là, il l'a chanté vraiment posément à sa manière. Donc, on sentait que quand il je me souviens qu'il y avait de l'émotion, dans, j'ose même dire dans sa voix et dans ses doigts, quand il pianotait, en faisant ce petit extrait d'une autre histoire.
Absolument. Et au fil des années, il s'est complètement investi et il a investi le titre. Et en même temps, c'est un des rares qui sait exactement et qui a entendu Gérard la chanter, qui sait exactement comment il plaçait ses mots sur la musique. Parce qu'il y a peu de gens qui comprennent et qui n'arrivent pas à placer les mots sur la musique parce qu'ils ne la chantent pas comme Gérard. Et au fil du temps, Fred est vraiment... Et moi, je lui dis, maintenant, c'est toi. Tu as ma palme d'or, Fred, quand tu la chantes. Ouais. Ça m'émeut énormément.
Et il n'y a que celle-là qui reprenne, hein, c'est...
Oui, c'est leur chanson maintenant.
Absolument. Alors Brigitte, comment Gérard composait ses chansons? Est-ce qu'il avait un sujet particulier qu'il mettait sur la table, qui lui venait à l'idée? Ou c'est selon l'inspiration du moment?
Alors, c'est... Gérard, quand nous étions justement en voiture pour aller dans les galas, quand il se levait le matin et qu'il traînait longtemps dans son peignoir... Quand nous étions dans notre maison en Sologne et qu'il allait prendre son café dehors dans la clairière, quelque part, il avait toujours une musique en tête. Et il avait un dictaphone.
D'accord.
Et donc, dès qu'il était sûr d'une mélodie, parce que c'était un excellent mélodiste, il prenait son dictaphone et il faisait du yaourt. Tu vois, il chantait n'importe quoi.
Oui, du volo-volo, comme on dit,
voilà.
N'importe quoi sur la mélodie qui
exactement.
Lui venait.
Exactement. Et il la gardait. Il la gardait sur sa petite bande. Et puis un bel après-midi, une belle nuit, il descendait dans son studio, il remettait la cassette de son dictaphone et il se mettait à composer au clavier, sur son DX7.
D'accord.
Voilà comment il faisait ses musiques. Ça partait pas d'un sujet. Ça partait d'une musique, d'une envie, d'une mélodie, d'un refrain.
D'accord.
Et souvent, tu avais des bouts de phrases comme ça. Alors, sur ça, alors en plus, c'était un gaucher qui écrivait très mal, Gérard. Donc, il y avait des majuscules en plein milieu des mots et tout. Et son torchon, parce qu'il n'y avait pas d'autres mots, tu le tournais dans tous les sens, tu reprenais les phrases, tu les remettais dans l'ordre et ça faisait des chansons.
Oui, mais lui, il se repérait dans son... Dans
absolument, son... absolument.
Bon. Alors, est-ce qu'il a écrit pour d'autres artistes, Gérard, pour des comédies musicales aussi, non?
Gérard a écrit déjà pour notre princesse de Monaco. Quand même.
Ah oui, c'est vrai.
Oui. Et quand même, ils ont, il a 4 titres sur l'album de la Princess de Caroline.
Et quand même. Hein.
Et oui, quand même, il avait adoré cet épisode. Il m'en a beaucoup parlé. Il s'attendait pas du tout à ce qu'elle soit aussi pugnace dans le travail. Il avait adoré. Après, il a aussi travaillé pour comment elle s'appelait, Lorraine Faure. Lorraine Faure, qui a sorti un disque magnifique qui s'appelait Regard de femme. Et le titre de l'album, en fait, c'est le titre de la chanson qu'ils ont fait avec Gérard, Regard de femme.
D'accord.
Et après, bon, bah, il a fait des musiques, des compositions, mais c'est principalement avec Caroline de Monaco et avec Lorraine Faure.
Ah, d'accord, ok. Justement, on va faire une petite pause musicale, comme on parle chanson, une petite respiration musicale. Et moi, j'ai choisi Shalom Baby.
Alors, c'est autre chose. Shalom Baby, c'était une chanson qu'il avait écrite pour lui. C'est sa dernière chanson qu'il a déposée à la SACEM. Mais malheureusement, il nous a quittés brusquement au début 2009. Et moi, je m'occupe depuis d'artistes en développement. Et c'est vrai que depuis 4 ans ou 5 ans même, maintenant, en 2018, oui. Depuis 5 ans, je m'occupe particulièrement de Sybille Liévois.
Oui, qu'on a déjà passé dans cette émission avec
absolument.
Une interview. Et que je passe régulièrement dans mon émission également.
Ben, on te remercie, Roselyne. C'est un diamant brut, Sybille.
C'est, ouais,
c'est une énergie solaire, un diamant brut. Mais elle est très attachée au texte. Et un jour, on cherchait des titres et elle est tombée sur le titre de le texte de Shalom Baby et elle m'a dit mais moi je la veux cette chanson, je la veux et j'ai trouvé que c'était une belle façon aussi de rendre hommage à Gérard puisque elle est chez nous chez Blanc Musique en édition qui était notre édition avec Gérard. Je me suis dit qu'elle porte un titre qu'on a déposé dans notre édition, c'est aussi une façon de continuer à rendre ici, sur cette terre, Gérard vivant, quoi, à travers une jeune artiste.
Voilà. Eh bien, nous allons écouter. On va donc écouter Shalom Baby par Gérard Blanc.
Chaque minute, chaque seconde, on en oublierait parfois de regarder là-haut, pour savoir enfin distinguer le laid du beau. Toi et moi, on file, file, file dans les rues, à se fuir nous-mêmes, à respirer sans but. Et des fois, on regarde s'envoler les moineaux, comme dans une photo de Robert Doisneau. Mais tu vois, y'a que les ondes qui passent.
C'est donc Shalom Baby. Alors Gérard, est-ce qu'il avait un rituel avant de rentrer en scène ?
Absolument. Alors, n'oublie pas, comme je te disais, que Gérard venait de la scène du Martin Circus, donc quelque part d'un côté très théâtral. Ils étaient toujours costumés, les Martin Circus.
Oui, c'est vrai.
Presque.
Oui.
Et Gérard avait gardé cette habitude. Jamais Gérard ne montait sur scène en jean et chemise. Jamais. Gérard avait des costumes de scène et on va dire un quart d'heure, une demi-heure avant de monter sur scène, il s'enfermait dans sa loge, il se maquillait. Gérard se maquillait, se mettait du fond de teint, se mettait du ricil ou un trait d'eyeliner, se mettait un peu de fard sur les pommettes.
Mais il faisait lui-même, il n'avait pas de maquillage.
Ah non, mais c'était sa façon de se concentrer.
D'accord.
Parce que par contre, jamais il ne faisait de vocalise. Je n'ai jamais entendu Gérard travailler sa voix. C'était un don qu'il avait eu, sa voix.
D'accord.
Jamais il ne faisait rien, quoi, pour sa voix. Il montait 3-4, il chantait 1h15, sans rien. Oui.
D'accord.
Mais par contre, le maquillage, sa trousse de maquillage et son portant avec ses habits, c'était très, très
important. C'était un rituel qui lui permettait de décompresser puis de se détendre juste avant le spectacle.
De devenir l'artiste.
D'accord.
Parce que c'était Monsieur Tout-le-Monde quand il arrivait. Mmh. Tu sais qu'il y a des endroits où on passait où les gens ne le reconnaissaient pas.
C'est possible.
Tant qu'il n'était pas habillé en costume de scène, avec sa chemise à jabot, son pantalon slim, ses boots, c'était fou, quoi.
Mais oui, il ne se baladait pas comme ça au quotidien dans la rue, donc effectivement, personne ne le reconnaissait.
Voilà, c'était très très drôle quand on arrivait sur certains endroits de gala, où les gens me voyaient, ils m'avaient vu, ou même, tu sais, sur Internet, où ils me disaient « Ah bah t'es là, Gérard sera là alors !» Et j'étais morte de rire, il était à côté de moi.
D'accord.
Je disais « Oui, oui, Gérard sera là ce soir, oui. »
C'est super. Alors dis-moi, qui a pris la décision de ne plus continuer le groupe Martin Circus ? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Ça n'a pas dû être évident.
Est-ce que tu sais, quand un couple divorce, qui prend la décision en général ? C'est l'usure.
Oui.
Souvent.
Tout à fait, oui.
Je pense qu'on va dire que c'est l'usure qui a fait qu'à un moment, au bout de 14 ans, c'est long 14 ans, quand tu comptes que de 70 à 84, ils n'ont pas arrêté. Ils vivaient quasi ensemble, comme tu m'as dit, je les ai vus partout, dans les émissions. Donc t'imagines cette vie, c'est quand même une longue traversée, quoi. Tu es en couple pendant 14 ans, t'es tout le temps ensemble en studio, tu fais des émissions, tu fais des galas, tu prends l'avion ensemble, t'es dans le camion ensemble, t'es dans la voiture ensemble, t'es sur scène ensemble, t'es dans les loges ensemble, t'as des caractères super, super bien ancrés, quoi, tu vois.
Bien c'est trempé.
Bien trempé, il y en a certains, c'était des enclumes, comme on dit, tu vois, c'est des mecs imbougeables au niveau caractère. Tu imagines bien que ça use aussi.
Oui, parce que t'as beau faire des concessions pour que tout se passe bien, au bout d'un moment, c'est usant.
Voilà. Et à un moment, ils se sont dit, bon, ben, on n'est plus en accord comme ça dans ce groupe, on va un petit peu partir à droite, à gauche. T'as Sylvain, le clavier, et Alain, le guitariste, qui sont partis avec Balavoine.
Ah ouais ?
Ils ont accompagné Balavoine. D'accord. Voilà. Et c'est là que Gérard s'est dit, moi, je suis leader, je suis le chanteur, je reste. Chanteur, je vais faire ma carrière solo. D'accord. C'est comme ça aussi, petit à petit, qu'ils sont quittés au fil du temps.
Donc on peut dire pour lui, c'est une liberté retrouvée, liberté entre guillemets, parce que bon, il était avec Martin Circus, donc il s'y sentait bien. Puis à un moment, tu te dis, bon bah, j'ai envie de faire autre chose en solo, donc j'y vais. C'est une sorte de liberté.
Mais absolument, tu sais où tu as raison sur le terme, c'est qu'on l'appelait plus Martin Circus que Gérard Blanc.
Oui, au bout d'un moment, il était plus
Mais ça va très loin. Tu sais que ça va très loin quand on a commencé, parce que Gérard n'est pas jeune, hein, tu te doutes bien s'il a commencé dans les années 60. Oui. Quand on a commencé à avoir des papiers de la sécurité sociale pour, tu sais, les retraites, il faut quand même savoir qu'il n'y avait pas marqué Gérard en nom et Blanc en prénom et nom. Il avait marqué Martin Circus sur ses feuilles de sécurité sociale. Donc ça allait très très loin quand même.
Oui.
Ce manque, tu vois, d'identification.
Oui, au bout d'un moment, on a besoin, je pense, je suis plus un tel. Je m'appelle comme ça, je suis né comme ça. Donc
il avait besoin qu'on l'appelle Gérard Blanc. Il avait besoin de voir sur un disque Gérard Blanc. Mmh. Et je pense quand même qu'il a pas mal fait, vu que le premier disque qu'on a connu, c'est une autre histoire.
Ah ouais, c'est super, c'est super.
Votre instant d'évasion, portée d'oreille. Vous écoutez Playlist, la web radio.
Alors Gérard continue en solo, donc toujours avec autant de succès et toujours autant dynamique. Et le public est toujours au rendez-vous. Tu l'as aidé dans ses projets scéniques ?
Ah bah sur toutes les dernières années, toutes les années 2000, oui bien sûr.
Oui.
Moi je viens du spectacle vivant et c'est même moi qui lui ai dit, maintenant t'arrêtes d'être dans tes studios, t'arrêtes de faire des musiques d'accompagnement, que ça soit de l'illustration sonore pour des séries, pour des émissions de télé ou autre. Tu vas refaire de la scène, Gérard. Parce que, en fait, c'est ça qui te manque aujourd'hui. Et donc, c'est moi qui me suis relancée, parce que j'avais eu des compagnies de théâtre, j'avais eu des compagnies, j'étais assistante sur même des compagnies d'opéra. J'ai dit, on va reprendre le live. Et c'est comme ça qu'on a recommencé à faire du live. Et tout ça a été au début des années 2000, quand nous avons fait des galas avec l'orchestre de René Cole.
Ah oui.
Absolument.
René Cole.
Et bon, tu sais, ils sont 18 à 20 sur scène, musiciens, et Gérard Cadore. Les musiciens qui adorent jouer plus que chanter, parce qu'il était musicien avant d'être chanteur au tout début. Et là, complètement, voilà, il m'a dit, mais t'as raison, je suis tellement bien avec eux. Donc on a fait énormément de galas avec l'orchestre de René Cole. Et c'est là qu'on a débauché le pianiste, Pascal Miconnet, qui a dit, mais moi je veux être en tournée avec toi aussi, je veux recomposer tes musiques, je veux être sur scène avec toi, et le guitariste Jérôme Bouygues.
D'accord.
Et c'est comme ça qu'on a remonté un groupe autour de Gérard petit à petit.
C'est
et
super.
C'est moi qui suis devenue productrice des spectacles.
Mais au début, ça devait lui faire drôle du coup de se retrouver, alors pas seul sur scène puisqu'il avait un orchestre, mais du coup, la scène était différente puisqu'il n'y a que lui qui chantait.
Oui, absolument.
Il n'y avait pas, c'était plus Martin Circus.
Mais de toute façon, Martin Circus, c'est lui le leader, c'est lui qui chantait aussi, donc
oui,
ça
oui,
chantait
tout à
pas,
fait.
Tu vois.
Mais bon, ce que je veux dire, c'est qu'ils étaient peu nombreux par rapport à l'orchestre de René Cole.
Oui,
comme tu dis,
non,
tu
mais bien sûr,
ça devait
bien
faire
sûr.
Un sacré.
Mais oublie pas que dans les années 80 et 90, avec son tube, il a été énormément solo dans toutes les boîtes de nuit.
C'est vrai.
Il a fait toutes
vrai.
Les discothèques avec son album où il a eu quand même 7 titres. Dans le top 50 des radios.
Ouais.
Parce qu'on parle d'une autre histoire, mais il en a quand même 7 derrière.
Tout à fait. Oui, oui, non, mais on parle de Jean Desmet parce que c'est celle qui a quand même retenu, qui a touché. Alors, on va refaire une petite pause musicale, Brigitte, si tu veux bien, avec Du soleil dans la nuit.
Et oui, absolument, bah, qui fait partie justement du même album, Ailleurs pour un ailleurs, le premier qu'il a sorti après Une autre histoire, où tu as ces fameux 7 titres, quoi, Sentiments d'océan, Tonton bâton, etc., etc., et Du soleil dans la nuit.
Allez, on y va, Du soleil dans la nuit.
Thank you.
Votre instant d'évasion. À portée d'oreille. Vous écoutez Playlist, la web radio.
C'était donc Du soleil dans la nuit. Alors lors de ses concerts, comment choisissait-il les chansons qu'il allait interpréter sur scène? Est-ce que systématiquement c'était la même liste, ou selon l'humeur du jour, ou de la ville, ou de l'endroit où il se produisait, c'était des chansons différentes?
Alors tu as devant toi la manager, ça tombe bien. Non,
c'est pour ça que je te pose la question.
Ça tombe bien. Alors en fait, on choisissait ensemble, et on avait, on va dire, des pré-listes. Suivant effectivement les endroits, suivant qu'on soit dans certains lieux ouverts, des lieux fermés, ça change beaucoup de choses.
Ouais,
après, suivant que ça soit des plateaux, on va dire, multi-artistes, où Gérard avait toujours quand même une place, on va dire, d'honneur, parce que comme il avait eu énormément de titres, justement, dans le top 50 dans les années 80, contrairement à certains artistes des années 80 qui avaient 15 titres connus, il avait toujours une place un petit peu importante, mais là, on choisissait évidemment les titres les plus connus. Dans les salles, il se permettait d'interpréter, comme il disait, les perles, les faces du cœur, celles qu'on connaît moins, parce qu'elles sont plus sensibles, qu'elles sont plus douces, qu'elles sont moins dans la fête, moins festives. Et on avait aussi des titres quasi inconnus, mais que lui adorait, qu'il avait fait sur un album dans les années 90, qui n'avait pas trop marché parce qu'il était plus allé vers le rock que vers rester vers la variété pure. Mais il y avait, comme il disait, des perles. Cet album, il s'appelait À cette seconde-là. Il y avait toujours Sylvain du Martin Circus qui était revenu au clavier sur cet album.
D'accord.
Et c'était Thierry Hoppe qui avait écrit la majorité des chansons. Thierry qui nous a aussi quittés. Et on avait ces titres qui rajoutaient sur les pré-listes quand on était dans des ambiances plus... comme quand on a fait le Sentier des Halles, tu vois.
Oui,
dans des ambiances plus confinées.
Oui.
Et donc voilà. Et c'est vrai que c'est moi qui donnais le dernier veto, parce que c'est moi qui étais à la régie qui disait soit tu passes ça au régisseur sur le PBO quand il était en PBO, soit c'est moi qui faisais le conducteur pour les musiciens sur scène. Et donc le dernier, c'était, voilà, je lui disais tu vas chanter dans cet ordre vraiment.
D'accord.
Et j'essayais un petit peu, tu sais, c'est toujours pareil, les artistes à un moment, quand ils ont des coups de cœur et qu'il y a des titres qu'ils veulent absolument chanter, ils vont oublier que trois titres pas connus, ça fait peut-être beaucoup sur un gala où on est justement sur une place de village, et qu'il faut aussi les re-ramener sans arrêt aux titres qu'ils connaissent pour qu'ils accrochent aussi pour les titres non connus.
Parce que les super fans de n'importe quel artiste connaissent même par cœur les chansons qu'on n'entend jamais à la radio ou, ou à la télé.
Exactement.
Mais y a les autres aussi qui aiment bien ces artistes-là, mais qui ne connaissent pas forcément tout le répertoire.
Donc il ne faut pas les noyer, tu vois. Il ne faut pas les noyer. Il faut justement, pour qu'ils apprennent à découvrir l'artiste, autre que par les tubes, il faut, moi je pense, tu vois, savoir mêler les morceaux très connus aux morceaux moins connus, et pas faire comme malheureusement font certains artistes que je nommerai pas, qui veulent absolument imposer leur nouvel album et qui pensent seulement au bout d'une heure à chanter les 3 ou 4 ou 5 titres qu'on connaît. Et ça, en général, malheureusement, ça lasse le public, quoi.
Il faut savoir faire un doux mélange de tout ça.
Exactement.
Quoi. Alors de toute façon, il reste les vinyles, les CD, les vidéos de ces spectacles, et les chansons de Gérard Blanc sont toujours fredonnées quand même par les jeunes, et même les moins jeunes qui connaissent les refrains par cœur, ça c'est clair.
Mais absolument, mais tu sais que quand même, il faut le dire, ça va faire plus de 10 ans, ça fait plus de 10 ans que les plateaux multi-artistes sur les 80 existent, et résultat, les enfants adolescents aujourd'hui, depuis qu'ils sont nés, entendent les chansons des années 80.
Ouais, c'est vrai.
Donc c'est incroyable, parce qu'il y a eu une espèce de période pendant 20 ans où les gens ne les ont plus entendues. Donc on va dire que c'est quoi, c'est difficile d'ailleurs, il n'y a même pas 20 ans, il doit y avoir seulement une décennie qui ne les connaît pas. Parce que tous les gens de 40 ans connaissent les chansons des années 80, parce qu'une autre histoire, moi je le vois bien, tous les gens de 40 ans la connaissent par cœur. Et ces gens-là, les gens qui les ont suivis peut-être ne les connaissent pas. Mais les gens d'après les connaissent parce que c'est les parents de 50 ans qu'ont fait ces enfants qui, il y a 10 ans, étaient adolescents. Et résultat, moi, je le vois, hein, quand je suis dans les concerts, t'as des gamins de 8 ans, 10 ans, tu lis sur leurs lèvres, ils connaissent les paroles de toutes les chansons des années 80 par cœur. Mais par cœur. Moi, je suis... admirative, quoi. Je les vois. Alors, évidemment, je regarde sur une autre histoire que je connais par cœur, mais je peux aussi regarder sur des chansons de Pietri, de Pastor, parce que je les connais très bien. Et je vois qu'ils connaissent par cœur les chansons, quoi. Mmh. Par cœur.
C'est parce que les parents aussi le passent souvent à la maison.
Mais bien sûr, hein, puisque c'est ce qu'ils vont voir dans les concerts.
Ben oui.
C'est plein, les zéniths sont pleins depuis 11 ans. Hein.
On voit les tournées des années 80, etc. Je ne sais plus si ça existe encore, la tournée H tendre aussi.
Pendant
un moment.
Mais bien sûr.
Mais il paraît que c'était blindé à chaque
blindé.
Fois.
C'est blindé. Donc évidemment, les enfants, il y en a, ils grandissent, ils viennent aussi, ils écoutent, et puis à la maison on entend, et tu allumes les radios, et les parents, ils écoutent, aiment France, tout ça, les chansons françaises, c'est les 80.
C'est vrai, c'est vrai.
Alors, t'en as certains dans les nouveaux, que ça soit Delerme, Vianney, tout ça, qui sont là, mais ils sont pas tant que ça, Roselyne.
C'est vrai.
Avoir un nom qu'on retient et qu'on a gardé, t'as des Biolay et tout ça, oui, t'as le fils de Dutron, mais tu vois, il y en a pas tant que ça. Alors que, qu'est-ce qu'elles font les radios? Ben elles repassent les 80 qui remplissent les zéniths, c'est normal.
Bah oui, c'est normal.
C'est normal.
C'est logique.
C'est logique.
C'est logique. Brigitte, alors tu continues à faire vivre l'œuvre de Gérard avec beaucoup de dynamisme, de délicatesse et beaucoup d'amour. Moi, je te remercie d'avoir accepté cette interview pour les auditeurs de Playlist La Web Radio. Et pour moi aussi, évidemment, parce que moi, j'étais contente. Bon, ça fait déjà 2-3 fois qu'on se rencontre. Et puis, on s'envoie des petits mots, donc c'est plutôt sympa. Et puis, en plus, cette interview pour une émission spéciale aussi qui aura lieu un samedi, un artiste. Cela nous fait l'occasion de nous revoir et moi, j'en suis ravie. Je vais te laisser le mot pour conclure, Brigitte.
Écoute, déjà, je fais un grand merci à toi et aussi à votre radio, la playlist La Web Radio, parce que cette fameuse journée là dont tu parles, je suis très touchée qu'on m'ait proposé ça, parce que effectivement, comme je te disais tout à l'heure, un artiste, ce n'est pas que ses tubes. Mmh. Un artiste, c'est tellement d'autres choses derrière. Mmh. Et j'ai envie de dire aux gens, baissez pas les bras, si vous allez pas bien, il y aura toujours un chanteur ou une chanteuse qui est là pour vous soutenir, pour vous réchauffer le cœur, le moral, et chanter, même si c'est pas votre métier, chanter sous votre douche, chanter au volant, baissez jamais les bras, ne vous dites jamais que rien n'est trop tard. Demain, ça sera trop tard. Mais aujourd'hui, faites ce que vous avez à faire et avancez.
C'est joli ce que tu nous as dit. Alors, avant de nous quitter, je vais te laisser choisir la dernière chanson. Quelle est ta chanson fétiche de Gérard?
Alors, me dis pas ma chanson fétiche, parce que il y a la perso, comme tout à l'heure,
oui.
Et puis il y a celle de la manager.
Ah bah oui.
Obligatoirement. Ah bah oui. Alors, on va dire que c'est la femme pro qui va te répondre. C'est Brigitte Scavi Blanc et non pas Madame Blanc.
Voilà.
Et Brigitte Scavi Blanc, elle va te dire, évidemment, avec ce que je viens de te dire, de jamais baisser les bras, c'est une autre histoire.
Voilà. Très belle chanson. Eh bien, on va conclure avec une autre histoire. Et puis, encore mille fois, merci Brigitte. Et moi, je te dis à bientôt.
À très bientôt, Roselyne. Merci.
De rien.
Comme ça, encore une fois.